L'Amenais, le livre du peuple, section 4. À présent, vous savez quel est le but auquel vous devez tendre. La nature vous dirige vers lui, vous presse incessamment de l'atteindre, en vous inspirant le désir invincible d'être délivré des maux qui de toutes parts vous assiègent, le désir d'un état meilleur et qui ne peut être meilleur pour vous qu'il ne le soit aussi pour vos frères. Ainsi, en travaillant pour eux, vous travaillerez pour vous, et vous ne pouvez travailler avec fruit pour vous qu'en travaillant pour eux avec un amour que rien ne lasse. Ce n'est pas tout cependant de connaître le but que vous a marqué le Créateur. Il est nécessaire de savoir encore par quels moyens vous y parviendrez, sans quoi vos efforts seraient stériles. Pauvres voyageurs fatigués, vous aspirez au gîte du soir. Apprenez-en la route. Je vous dirai toute la vérité parce que c'est elle qui sauve. Il y en a qui croient bon de la voiler. Ce sont ou des imposteurs ou des timides que Dieu effraie. Car la vérité, c'est Dieu même. Et la voilée, c'est voiler Dieu. La sagesse qui préside à la vie humaine et l'empêche d'errer au hasard consiste dans la connaissance et dans la pratique des vraies lois de l'humanité. Et l'ensemble de ces lois dont se compose l'ordre moral est ce qu'on appelle droit et devoir. Plusieurs ne vous parlent que de vos devoirs, d'autres ne vous parlent que de vos droits. C'est séparer dangereusement ce qui de fait est inséparable. Il faut que vous connaissiez et vos devoirs et vos droits pour défendre ceci, pour accomplir cela. Jamais vous ne sortirez autrement de votre misère. Le droit et le devoir sont comme deux palmiers qui ne portent point de fruits s'ils ne croissent à côté l'un de l'autre. Votre droit, c'est vous, votre vie, votre liberté. Est-ce que chacun n'a pas le droit de vivre, le droit de conserver ce qu'il tient de Dieu? Est-ce que chacun n'a pas le droit d'exercer sans obstacle et de développer ses facultés tant spirituelles que corporelles afin de pourvoir à ses besoins, d'améliorer sa condition, de s'éloigner toujours plus de la brute et de se rapprocher toujours plus de Dieu? Est-ce qu'on peut justement retenir un pauvre être humain dans son ignorance et dans sa misère, dans son dénuement et son abaissement, lorsque ses efforts pour en sortir ne nuisent à personne? Ou ne nuisent à ceux qui fondent leur bien-être sur l'iniquité en le fondant sur le mal des autres. La colère de ces hommes mauvais, lorsque le faible secoue des chaînes qui l'étreignent, n'est-ce pas la colère de la bête féroce contre sa victime qui se débat? Et leurs plaintes, ne sont-ce pas les plaintes du vautour à qui sa proie échappe? Or, ce qui est vrai de chacun est vrai de tous. Tous doivent vivre. Tous doivent jouir d'une légitime liberté d'action pour accomplir leur fin en se développant et se perfectionnant sans cesse. On doit donc mutuellement respecter le droit les uns des autres. Et c'est là le commencement du devoir, la justice. Mais la justice ne suffirait pas aux besoins de l'humanité. Chacun, sous son empire, jouirait à la vérité pleinement de son droit, mais resterait isolé dans le monde, privé des secours et de l'aide perpétuellement nécessaires à tous. Un homme manquerait-il de pain? On dirait qu'il en cherche. Est-ce que je lui en empêche? Je ne lui ai point enlevé ce qui était à lui. Chacun chez soi et chacun pour soi. On répéterait le mot de Caïn. Suis-je chargé de mon frère? La veuve, l'orphelin, le malade, le faible seraient abandonnés. Nul appui réciproque. Nul bon office désintéressé. Partout, l'égoïsme et l'indifférence. Plus de lien véritable, plus de souffrance ni de joie partagée. Plus de respiration commune. La vie, retirée au fond de chaque cœur, s'y consumerait solitaire comme une lampe dans un tombeau, n'éclairant que les débris de l'homme. Car un homme sans entrailles, dénué de compassion, de sympathie, d'amour, qu'est-ce autre chose qu'un cadavre qui se meut? Et puisque nous avons tous besoin les uns des autres, de nous appuyer les uns sur les autres, comme les frêles tiges des herbes des champs que le moindre souffle agite et coud, puisque le genre humain périrait sans une mutuelle communication des biens que chacun possède individuellement en vertu de la loi de justice, une autre loi est nécessaire à sa conservation. Et cette loi est la charité. Et la charité qui forme un seul corps, vivant des membres épars de l'humanité, est la consommation du devoir dont la justice est le premier fondement. Que serait un homme privé de toute liberté sur la terre, qui ne pourrait ni aller, ni venir, ni agir, qu'autant qu'un autre le lui commanderait ou le lui permettrait? Que serait-ce qu'un peuple entier réduit à cette condition? Les bêtes sauvages vivent plus heureuses et moins dégradées au sein des forêts. Mais aussi, que serait un homme concentré uniquement en lui-même par l'égoïsme, ne nuisant à personne directement et ne servant non plus personne, ne songeant qu'à soi, ne vivant que pour soi? Que serait un peuple composé d'individus sans lien, où nul ne compatirait aux maux d'autrui, ne se tiendrait obligé d'aider ses frères et de les secourir, où tout échange de services, tout acte de miséricorde et de pitié ne serait qu'un calcul d'intérêt, où la plainte de celui qui souffre, les gémissements de la douleur, le sanglot de la détresse, le cri de la faim s'exhaleraient dans les airs comme un vain bruit, où rien ne se répandrait de chacun en tous et de tous en chacun par une secrète impulsion de l'amour, qui ne sait ce que c'est que posséder parce qu'il ne jouit que de ce qu'il donne. Ce peuple, semblable aux légers débris abandonnés sur l'air après que le grain a été recueilli, pourrirait bien vite dans la boue s'il n'était emporté par l'une de ces tempêtes à qui Dieu ordonne de passer sur ce monde pour le purifier. C'est le droit qui affranchit, mais c'est le devoir qui unit. Et l'union, c'est la vie, et la parfaite union est la vie parfaite. La nature entière nous avertit de l'indispensable besoin que tous ont les uns des autres. Le précepte divin du secours mutuel et du dévouement et de l'amour nous est à chaque instant rappelé par ce que nos yeux voient autour de nous. Lorsque le temps est venu, pour elles, d'aller chercher en d'autres climats la pâture que le Père Céleste leur y a préparée, les hirondelles s'assemblent. Puis, sans se séparer jamais, elles voguent, nautonniers aériens, vers les rivages où elles se reposeront dans la paix et dans l'abondance. Seules, que deviendrait chacune d'elles? Pas une n'échapperait au péril de la route. Réunies, elles résistent au vent. L'aile débile ou fatiguée s'appuie sur une aile moins frêle. Pauvres douces petites créatures que le dernier printemps vit éclore, les plus jeunes, abritées par leurs aînés, atteignent sous leur garde le terme du voyage. Et sur la terre lointaine où la Providence les a conduites, par-dessus les mers, rêvent de nid natal et ses premières joies, ses joies mystérieuses, ineffables, que Dieu a mises pour tous les êtres à l'entrée de la vie.